Europe 1.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il excelle dans les contraires, clownesque ou poignant, car son talent n'a pas de frontières. Je reçois José Garcia, dont l'énergie volubile cache si bien, trop bien peut-être, les vagues de mélancolie. José Garcia, complexe et passionnant, derrière la fausse outrance. Son talent, eh bien, c'est au service d'une comédie sombre et vertigineuse de questions qu'il le met jusqu'au 17 mars. Une comédie qu'il joue au Théâtre Marigny à Paris, où il affronte sur scène Isabelle Carré et Jérôme Kircher. Donc, dans cette pièce intitulée « Biographie, un jeu » signé Jérôme Frisch, qui propose de remonter le temps pour déjouer le cours des choses. Entre hasard, destin et libre arbitre, ah, si c'était à refaire. Bonjour et bienvenue, José Garcia.
Toujours un bonheur, c'est tellement bien dit. Vous excellez là-dedans. Voilà.
Mais alors moi, je suis plus que ravie et chanceuse parce que je viens d'apprendre que dans la journée, vous tournez une comédie musicale, vous faites les synchros des films, bien sûr, les promos, et puis sur scène, ben vous êtes voilà, à Marigny tous les soirs.
Tous les soirs.
Vous dormez une heure et quart.
Je dors très bien parce que je pars tout de suite en courant du théâtre pour aller me coucher et pour repartir. C'est la seule règle, ça c'est le seul problème, oui.
Et c'est le rythme que vous aimez.
Oui, enfin, j'aime aussi la détente, j'aime aussi rire, j'aime aussi boire des coups, mais là, non, je suis dans une forme olympique et je suis très heureux parce que je suis dans une efficience qui me fait plaisir, ouais.
Alors, cher José Garcia, bon, une fois de plus, Wikipédia se trompe. Parce que quand on plonge dans votre bio sur Wikipédia, on peut lire que vous n'avez jamais fait de théâtre. Donc, on en conclut que cette pièce, Biographie un jeu, est la première que vous jouez. Or, c'est faux.
Ah oui, non, j'en ai beaucoup. En fait, non rémunéré, plus d'une centaine.
C'est drôle comme formule.
Et rémunéré, bah oui, parce que
pas
souvent...
Pas payé, j'en ai voilà. Joué beaucoup.
Ah mais tous les acteurs, vous savez, enfin, la plupart des acteurs, c'est ça. On en fait beaucoup gratuit. Et puis, après, j'en ai fait plusieurs. J'ai joué pendant des années, j'ai joué Candide de Voltaire, mais dans des spectacles, pas spectacles de rue, mais avec une compagnie de rue. J'ai joué Classe Ennemie, au Théâtre de la Salamandre, qui était le théâtre de Gildas Bourdet. J'ai joué l'Atelier 88 avec la pièce de Chambertin, Le Mouton à l'entresol de Gilles Cohen. Et ça, tout ça, c'était rémunéré. C'était la partie. Les autres, c'est tout le répertoire classique. Pratiquement tout Molière, certains Shakespeare, Musset, enfin voilà.
Donc il est temps que Wikipédia voilà. Rectifie. Alors vous aviez seulement 17 ans, allez, on va dire, et demi quand vous êtes entré au cours Florent. Et malgré le service militaire qui vous avait affecté à Paris à la surveillance des poids lourds de l'armée, eh bien vous avez continué de vous rendre au cours Florent pendant le service.
Oui, le soir.
De manière régulière.
Ah bah oui, c'est pour ça que j'avais demandé. En fait, j'ai fait une... pour pouvoir être à Paris, je me suis dit, on va m'envoyer en Allemagne, donc je vais aller devancer l'appel. Et en devançant l'appel, j'ai écrit une très jolie lettre pour leur dire, écoutez, ça serait gentil de me mettre plutôt à Paris, est-ce que c'est possible? Je suis plutôt de bonne foi. Et j'avais fait aussi une préparation militaire, donc j'étais sergent. Et quand je suis arrivé à l'armée, j'ai compris que sergent Garcia, c'était pas une bonne place.
Voilà.
Donc je me suis fait dégrader dans les 3 jours et je suis devenu première classe. C'est comme ça que je voyage depuis.
Alors, en deuxième année, José Garcia, vous avez été admis dans la classe la plus prisée du cours Florent, celle dont sortent toutes les futures stars, la fameuse classe libre. Et vos camarades s'appelaient entre autres Sandrine Kiberlin ou Yvan Attal. Quel personnage vous êtes-on joué dans cette classe libre ?
Alors évidemment, beaucoup de personnages de comédie, mais aussi des personnages plus sombres. Oui, enfin, je donnais beaucoup la réplique. Surtout en deuxième année, je donnais énormément. J'en avais presque 7 par semaine. Et c'est là que je me suis rendu compte que ça commençait à marcher, quoi. C'était agréable.
Mais alors, en théorie, la classe libre du cours Florent, c'est la voie royale pour le cinéma et le théâtre. Sauf que vous, José... voilà qu'on vous retrouve quelques temps plus tard à la télé sur le plateau de Nulle Part Ailleurs, travesti en cagole aussi improbable qu'irrésistible, il faut bien le rappeler. Mais pourquoi ? Pourquoi ce passage qui a duré 7 ans quand même, Nulle Part Ailleurs ?
C'est-à-dire que en fait la classe libre c'est pas une promesse de travail.
Ça ne l'est pas.
Et en fait j'ai vu beaucoup de gens partir en sprint. Donc c'est très angoissant si vous voulez pour un acteur, c'est que vous voyez plein de gens réussir tout de suite. J'avais mes camarades Yvan Attal, Sandrine, tout le monde commençait à tourner. D'autres étaient au théâtre. Et moi, je souffrais à martyr de ne pas pouvoir travailler. Et en fait, au moment où j'étais vraiment à l'agonie, j'allais arrêter ce métier, j'ai une amie qui m'a dit « viens faire la clap ». Et donc j'ai commencé à faire des personnages avec Antoine de Caunes et surtout avec Carl Zero au départ. Ça a commencé à me donner de l'argent et de pouvoir vivre. Et là, à partir de là, toutes les familles de théâtre...
Une popularité phénoménale. Mais alors, les gens de théâtre vous ont tourné le dos.
Oui. À l'époque, c'était comme ça, oui. Et là, bah, tout le monde m'a fermé la porte en me disant mais comment tu peux te mettre dans ces situations. Je leur ai dit bah, écoutez, engagez-moi, comme ça j'aurai plus de problème. Mais voilà.
Bon, tout ça, bien sûr, ça remonte à 30 ans. Vous avez le sentiment, José Garcia, qu'il a fallu finalement beaucoup de temps en alternant comédie et films d'auteur pour que le public vous découvre véritablement.
Vous savez, vous remettez toujours à zéro. Les compteurs sont toujours à zéro. Vous pouvez avoir toute l'expérience du monde. Vous arrivez sur un film, sur une pièce de théâtre. Tout se remet à zéro. C'est un chrono qui repart. Vous pouvez tout perdre en 5 secondes. Je vous citerai pas un peu ce qui se passe en ce moment, mais tout peut arriver très rapidement. En fait, la difficulté, c'est pas de commencer. La difficulté, c'est de savoir comment on termine. Ça, c'est ça qui me passionne. Si vous arrivez à garder quand même... des bons choix, si vous avez la chance d'être aimé jusqu'au bout, comment vous arrivez à vous recycler, comment vous arrivez à vous réinventer. Tout ça est très délicat. Et je crois que la fin est plus difficile que le début.
Au sujet du casting, en fait, pour votre premier film d'auteur, Extension du domaine de la lutte, d'après le roman de Houellebecq, que vous avez tourné donc après Le triomphe de la vérité si je mens, il y a quand même une anecdote savoureuse, carrément incroyable, avec Philippe Harel, le réalisateur, que j'aimerais bien que vous nous contiez, parce qu'elle en dit beaucoup sur les cloisonnements de ce métier.
Oui. Bah, écoutez, en même temps, c'est drôle. Maintenant, c'est fini. Enfin...
Parce que vous avez tourné ensuite plusieurs films avec lui.
Oui.
Donc, c'est une grande amitié et respect de part et d'autre. Mais au départ...
Bah, au départ, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé à faire une promo et quand on avait déjà tourné Extension du domaine de la lutte, et on lui a montré tous les extraits de ce que je faisais avec Antoine de Caunes. Et là, sa bouche s'est décrochée. Il m'a dit, alors là, toi, franchement, t'as du bol parce que je t'aurais vu avant, j'aurais jamais... Il n'avait pas la télé. Donc en fait, il m'a embauché
C'est-à-dire, il vous aurait vu sur Nulle part ailleurs, en Cindy trop forte. Jamais vous vous seriez retrouvé au casting de l'extension du domaine de la lutte.
Non, il aurait eu un doute. Non. Oui, c'était comme ça. Quoi. Vous savez, même encore maintenant, il y a forcément des préjugés, des a priori, et puis des envies de travailler avec des gens qui sont considérés comme des acteurs. Donc, vous savez, ce qui est assez étrange, là, ça fait quelque temps que j'ai pas de films, voilà, je continue à faire des films, mais j'avais pas de films très populaires qui sortaient. Et en fait, ce qui reste sur Internet fait que au bout d'un moment, les journalistes, on m'appelait Trublion au début. Vous savez, quand
oui, Trublion, je déteste.
Voilà.
Ces,
et en fait,
ces mots,
pendant des années, on m'a reconsidéré comme acteur. Et maintenant, je suis redevenu Trublion. Parce que les gens redécouvrent tous les trucs qui restent sur Internet. C'est
Mon
assez
Dieu,
drôle.
Au secours. Ouais. Bon, on ne prête qu'aux riches, ça, hélas, on le sait. L'année du triomphe de la vérité, si je mens, vous avez reçu combien de scénarios?
Oh là, je ne sais plus. Ça a été un moment très délicat. Je n'étais pas prêt à ça. Pas du tout entouré pour ça. C'est-à-dire que j'ai eu une centaine de scénarios qui sont arrivés. Il y avait tout et n'importe quoi. Mais le problème, je ne pouvais pas tout lire. C'était impossible puisque des gens me demandaient. Donc, je commençais des tournages. Je faisais à peu près 6 films par an. Donc, lire en même temps que je tournais...
6 films par an. C'est-à-dire que vous n'étiez jamais chez vous, José Garcia.
Si, j'étais là, mais le...
Le temps de changer de valise, on laisse le linge à laver et puis hop, on reprend un avion.
Non, parce qu'on avait pas mal à Paris, donc non, ça va, ça s'équilibre bien en fait. Mais après, des années après, j'ai commencé à refaire ma carrière en Espagne et là, ça a commencé à poser problème.
Alors, on va évoquer tout ça, mais quand vous parliez des scénarios que vous n'aviez en fait même plus le temps de lire, il y en a un dans lequel vous n'avez pas plongé, c'est quand même hallucinant. C'est Bienvenu chez les Ch'tis, d'Ali Boone.
Ça, c'était pas pour ça. Non.
Mais comment ça s'est passé? En fait, c'est parce que vous tourniez tant, vous nous avez dit 6 films par an, vous étiez au bord du burn-out et vous aviez envie de faire une pause. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne retrouviez pas, alors que d'Ali Boone, vous voulez absolument?
Oh, écoutez, comme tous les réalisateurs, il propose et puis après il essaie de trouver les meilleurs acteurs. Mais non, mais le problème c'est que j'étais parti déjà en Espagne pour recommencer un peu tout à zéro. Donc j'avais commencé à faire 2 films, un avec Carlos Saura, un autre avec Miguel Courtois sur le théâtre militaire. Et entre deux, je crois que j'avais fait une comédie, voilà. Donc en tout, ça faisait à peu près 8 mois que j'étais en dehors de chez moi. Je revenais que pour des promos. Et ça faisait 2-3 années que c'était quand même très chargé. Donc dans une espèce de monde irréel qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et donc, je suis arrivé à la fin de Sa Majesté Mineure, en ayant tourné aussi le début d'Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Enfin, pas mal de films comme ça, assez lourds et assez costauds à faire. Et j'étais épuisé. Et donc, j'ai même pas lu le scénario. J'ai appelé Danny Boone et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je lirai pas le scénario, je m'arrête. Et je me suis arrêté pendant 2 ans et demi. Pour vous dire que, bon, voilà.
2 ans et demi, vous avez disparu, on va dire, de nos écrans parce que vous étiez en Espagne.
Non, j'étais en France, toujours en France, mais j'ai arrêté, je me suis reposé, j'ai commencé à faire... c'est vraiment la meilleure décision que j'ai prise de ma vie.
Vous êtes lancé en fait dans les sports extrêmes qu'on vous interdisait de pratiquer par contrat quand vous étiez sur les tournages.
J'ai allé passer mon brevet de pilote.
Oui.
Voilà. Après j'ai fait du kite. Enfin, j'ai des milliards de trucs. J'ai passé ma vie.
Vous avez vécu.
Oui. J'ai concrétisé tous mes rêves en fait.
C'est chic et c'est rare.
Oui, mais alors maintenant je suis content, c'est pour ça que je travaille 2 fois plus et je suis ravi que, bah voilà, parce qu'en fait je me rends compte que de toute façon de la retraite j'en aurai pas, donc je finirai staccanoviste et enchaîné à mon travail.
José Garcia, vos parents ont quitté la Galice, dont la capitale est Saint-Jacques-de-Compostelle, au milieu des années 50 pour venir s'installer en France, à Paris, et vous avouez, ma part d'ombre, c'est ma part espagnole. Expliquez-nous.
Je veux
comprendre.
Ah, parce que pour moi, le sacré, c'est l'Espagne. On est entouré, si vous voulez, de quelque chose d'assez sacré. Vous savez, je crois que c'est Charles Quint qui disait « J'utilise l'allemand pour parler à mon cheval, l'italien pour parler aux femmes, le français pour les poèmes et l'espagnol pour parler à Dieu. » Et en fait, il y a quelque chose de très sacré... Dans l'Espagne, en tout cas, qui était l'Espagne fasciste de cette époque-là, où il y avait l'Église, l'État, et puis les pauvres individus qui grignotaient là-dedans. Donc il y avait quelque chose de très fort. Les campagnes étaient pleines vraiment de femmes habillées en noir. Enfin, toutes les images étaient très, très fortes, quoi. C'était vraiment... Et puis, c'est très physique, l'Espagne. Même quand on parle dans le corps, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, toutes ces images, en fait, c'est ce qui m'impressionnait.
C'est pour ça que vous aimez les tableaux de Goya.
Oui, ça parle des démons et en même temps, le sacré effraie pour effrayer les êtres humains. Et moi, en tant que gamin, j'étais très effrayé à cette époque-là. Oui.
Une bonne partie du public vous imagine programmé pour être heureux et rire de tout. Mais ça crée de la confusion dans la vie vraie, non? Parce que vous êtes quelqu'un de terriblement complexe, avec un questionnement incessant, avec, comme le dit votre ami Melki, vos ondes d'ombre et d'angoisse.
Oui.
Or, le public vous imagine perpétuellement heureux.
Alors, il y a la politesse. Et la politesse, c'est que, écoutez, quand on a la chance de faire mon métier et qu'on peut vivre de sa passion et que, voilà, on est entouré de bonnes personnes, la moindre des choses, en tout cas, c'est de ne pas étaler ces petites angoisses bourgeoises comme ça. Voilà, il y a tellement de gens qui souffrent. Franchement, je ne vais pas la ramener. Et moi, mon métier, c'est de donner surtout beaucoup d'espérance, de joie, et de confiance aux gens.
Alors, je disais tout à l'heure, on s'est tous au moins une fois dans notre vie posé cette question, si c'était à refaire, si on pouvait rejouer notre vie, remonter le temps pour en déjouer le cours et peut-être faire d'autres choix. Bon, elle est au cœur, en fait, de la pièce que vous jouez en ce moment, cette question. Pièce que vous jouez au Théâtre Marigny avec Isabelle Carré et Jérôme Kercher. Pièce intitulée « Biographie, un jeu ». Le sujet, il est vertigineux parce qu'il convoque, en fait, le destin, le hasard, et le libre arbitre.
Oui.
Parce qu'on se dit, si c'était à refaire, je ferais autrement. Mais c'est bien plus compliqué que ça.
Ah, de toute façon, les gens, quand ils ressortent, ça les bluffe. Parce que c'est un homme qui essaie de faire sortir de sa vie une femme dont il a... En fait, il pense que cette femme est un peu la cause de tout. De plein de choses que je ne veux pas dévoiler. Mais il considère que c'est elle le problème. Et aujourd'hui, c'est assez marrant de voir qu'en fait, on croit toujours que c'est dans l'autre qu'est le problème. Vous voyez bien, avec toutes les lois qui sont en train de passer, on pense toujours que c'est l'étranger, que c'est l'autre. Et en fait, c'est parce qu'il n'y a aucune remise en question de votre part. Et en fait, dans cette pièce, heureusement, il y a un meneur de jeu qui est joué par Jérôme Kercher, qui dit « Mais vous avez le choix. Vous pouvez revenir, vous pouvez essayer de vous dépêtrer de toute cette histoire. » Et en fait, en essayant de me dépêtrer à chaque fois, il me ramène dans mon passé, il me ramène à plein d'endroits. Il me dit « Regardez, là, quand vous aviez le choix, vous êtes pas vraiment... »
Vous passez la porte ou vous la passez pas? Vous lui tournez le dos ou pas? Vous lui répondez quoi?
Il faut préciser
d'ailleurs au public qu'on peut le dire, n'est-ce pas? Cette femme, c'est le grand amour de votre vie.
Oui, absolument.
Voilà, que vous avez épousée, mais qui n'a pas réellement fait votre bonheur. Donc, si on repartait en arrière... Voilà. Alors, Max Frisch, l'auteur, dit « J'ai voulu écrire une comédie ». Mais c'est une comédie qui répond bien, finalement, à votre part sombre espagnole hein, qu'on évoquait à l'instant,
ah oui.
Je trouve.
Eh ben, elle commence justement très en comédie, parce qu'on voit ce pauvre gars essayer de se dépatouiller, mais à chaque fois, il est énervé, agacé, il essaye de faire sortir Isabelle Carré, qui joue à la perfection l'agacement. Mais après, ben, on se rend compte, au fur et à mesure qu'on rentre un peu dans sa part sombre, et on se rend compte que cet homme a été très lâche dans plein de situations, n'a pas voulu voir certaines choses, il s'est accoutumé à certains... Voilà, à avoir honte, à ne pas faire face à la vie. Et ce qui est très beau, c'est que c'est un professeur. Il travaille sur l'éthologie, la psychologie du comportement. Et c'est encore...
Justement.
Non, mais tout est très bien, très, très bien ciselé. C'est-à-dire qu'en en fait, justement, il parle de tous ces hommes, tous ces êtres qui ont une grande capacité, une grande reconnaissance, mais qui, dans la vie, sont complètement inadaptés ou sont complètement lâches ou... Donc, on se rend compte qu'en fait, on a beau avoir tous les éloges, avoir une reconnaissance, on n'en est pas moins un être humain et avec toutes ses failles.
Isabelle Carré, c'est une camarade de jeu de longue date, hein, parce qu'en fait, vous étiez ensemble au cours Florent.
Oui.
Et vous avez fait plusieurs films ensemble.
Un des premiers films que j'ai fait, La mort du chinois. Après, on a fait 4 étoiles, qui était un super moment. Et puis voilà, on se retrouve là. Non, c'est une super partenaire. Oui.
Donc, vous êtes en famille. Alors, j'ignorais que le metteur en scène, Frédéric Bellier-Garcia, qui est le fils de Nicole Garcia, avait enseigné la philo dans une première vie. Il a été prof de philo. Vous pensez que ça donne une patte particulière à sa mise en scène ?
Je ne sais pas. Moi, je ne savais pas. Vous me la prenez. Écoutez, moi, j'adore la philosophie. J'adore les philosophes. Mais je pense que oui, de toute façon, il a une façon très agréable de travailler, Frédéric Bellier-Garcia. D'abord, c'est un type très érudit et tout simple et qui ne la ramène pas, qui est toujours en train de rire. Mais il amène tranquillement les gens vers quelque chose. C'est une manière très douce de travailler et très efficace, en fait.
Alors, José Garcia, vu la pièce que vous défendez, bien sûr, il y a une question à laquelle vous n'allez pas échapper. Si vous pouviez réembobiner le fil de votre vie, y a-t-il un choix ou des choix que vous ne feriez pas ou que vous feriez autrement ?
Alors, je me suis évidemment posé la question plein de fois. La question est intéressante, mais la réponse est tout aussi vague que la question est intéressante.
Voilà.
La question, c'est que si vous reveniez en arrière, vous aviez toute la connaissance, la pleine connaissance de tout ce que vous avez raté qui a marché, est-ce que si vous faisiez, par exemple, tous les projets, est-ce que ça aurait la même importance, le même impact ? Et si vous étiez dans une réussite totale, est-ce que vous seriez la même personne ? Mm-hmm. Est-ce que vous ne seriez pas au bout du rouleau parce que tout d'un coup, vous avez tout réussi ? Je pense que la vie est faite et elle est assez bien faite de manière à avoir beaucoup d'échecs, quelques réussites et que ces échecs permettent de se remettre à niveau. Quand on les vit, c'est difficile. Il y a des gens qui vivent tout le temps dans l'échec, malheureusement. Je crois qu'il y a une part de chance énorme. Je crois qu'on ne se fait pas tout seul ou qu'on n'est pas là à se faire le self-made man en disant « mais moi, je suis plus intelligent que les autres ». Je crois qu'il y a quelque chose qui est prédestiné.
Voilà, il y a la chance et il y a l'effet papillon, n'est-ce pas ?
Absolument. Et la question aussi, c'est est-ce que, une fois que cette vie est terminée, est-ce que vous ne pensez pas que vous reviendrez au début pour essayer de la refaire encore une deuxième fois, jusqu'à ce que vous arriviez...
Alors là, on est dans le fameux film américain, vous
absolument,
savez.
Absolument, c'est ça. Ouais, non, mais avec Bill Murray, absolument.
Voilà.
Un jour sans fin.
Un jour sans fin. Bon, José Garcia, est-ce que le théâtre est plus exigeant que le cinéma ?
C'est complètement différent. Le théâtre, moi, je sais que d'avoir repris le théâtre là, c'est tellement dans mes gènes que je rentre tous les soirs comme si je rentrais dans mon salon. Je trépigne derrière le rideau tellement que je suis content d'y aller, quoi. Tous les soirs, on se fait des suées parce que, en fait, c'est une pièce où l'on recommence des scènes et on change un détail. Ce qui fait que quand vous vous trompez dans une phrase ou dans deux phrases, vous sautez 4 pages. Avant-hier, par exemple, on a eu un problème de changement de lumière et on est tous restés tétanisés parce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est comme et on ne savait plus comment se rattraper et en fait, il faut se rattraper. Et là, je peux vous dire que l'adrénaline monte à 200%.
Le spectacle vivant.
Le spectacle est vraiment vivant.
Vraiment
et les gens
vivant.
Sont à l'affût. Il y a des moments, ils ne savent plus si c'est vrai, si ça marche, si ça ne marche pas. Ils ont l'impression qu'on a des trous. Il y a des moments où on peut en avoir. Des moments où on repart, on reprend les wagons et c'est un vrai mouvement perpétuel avec les gens dans la salle. Non, c'est ça qui est intéressant. Et puis Jérôme Kercher est inquiétant. On ne sait pas si c'est le diable, si on est dans une partie purgatoire, si on est dans un endroit où on est vu par des psychologues, on ne sait pas. Et ça devient à chaque fois une vraie construction, ouais, comme une espèce d'automate.
Tout ça, ça se passe au Théâtre Marigny à Paris avec mon invité José Garcia jusqu'au 17 mars prochain. Mais nous on continue encore la balade, bien sûr, avec lui sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Elle reste longtemps en tête, cette pièce de théâtre signée Max Frisch, qui a pour titre « Biographie, un jeu ». Pièce jouée par Isabelle Carré, Jérôme Kercher et l'irrésistible José Garcia, mon invité aujourd'hui, donc vous entendez le rire. Voilà, pièce qui se joue au Théâtre Marigny à Paris jusqu'au 17 mars. José Garcia, est-il vrai que jeune ado, vous rêviez de devenir ébéniste ?
Oui, j'ai eu pendant un certain temps le plaisir, même encore maintenant, je m'émerveille toujours. Dès que je vois, en fait, c'est quelque chose qui m'attire complètement, de toucher les statues en bois ou le bois. Il faut absolument que je le touche, quoi. C'est irrésistible pour moi.
Alors, ce goût des belles choses, des meubles raffinés, est né en vous parce que vous avez grandi dans les beaux appartements, les hôtels particuliers du 16e arrondissement, mais vous n'étiez pas, on va dire, proprement parler, sur vos terres. Vous étiez un peu comme un étranger dont on admet la présence, puisque vos parents étaient, selon la formule de l'époque, employés comme gens de maison. Vous avez donc d'abord été un observateur avant de devenir un acteur.
Oui.
Vous avez passé beaucoup de temps à écarquiller les yeux, silencieux, cachés derrière.
Ben, c'est ça qui m'a sauvé, de toute façon. D'abord, j'étais dans des lieux qui ne m'appartenaient pas. Et encore maintenant, j'ai très peu de choses qui m'appartiennent. Donc j'ai gardé cet espace-là. C'est-à-dire que moi, je possède pratiquement rien. Voilà,
Pourquoi cela ? Pourquoi ? C'est un choix.
Parce que j'aime vivre l'instant présent. Je porte en moi ma vie, mais je n'aime pas posséder. C'est-à-dire que j'aime vivre dans des lieux. Ce qui est important pour moi, c'est l'instant que je peux partager avec des amis. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un pique-nique, comme un restaurant, comme un appartement loué, comme voilà, un lieu comme un hôtel où j'ai le temps de pouvoir profiter de ce que j'aime. Mais sinon, moi, j'ai pas envie d'entretenir, puisque mes parents trimaient toute leur vie, entretenir une pelouse, entretenir une maison. Donc, je pensais de rien, pratiquement rien. Même ma voiture, c'est une Smart, elle est en location. C'est-à-dire que s'il y a un truc, on rend tout. Voilà.
Mais ça n'empêche pas, le goût des belles choses.
Ah, mais regardez, j'adore les musées, j'adore les belles maisons des autres. J'aime m'extasier devant des statues, des peintures.
Mais les belles maisons des autres.
Ah oui, mais voilà. J'aime pas posséder, c'est-à-dire moi, je n'aurais pas l'idée d'acheter un tableau, même si j'en avais les moyens. J'aimerais pas ça.
Alors, vous, enfant unique, vous êtes trouvé donc, et ça c'est un petit miracle, une sorte de grand frère, Philippe, au cours de l'enfance. Philippe qui était le fils des patrons. Est-ce que c'est lui en fait qui vous a fait comprendre que sans doute une autre vie vous attendez ailleurs, était possible ailleurs? Est-ce que c'est lui qui vous a pris par la main pour sortir des rails? Puisque vos parents auraient adoré que vous soyez expert-comptable, c'est ça?
Oui. Non, eux, ils voulaient simplement que j'aie une vie décente et que je puisse gagner ma vie, quoi. Ils s'en foutaient de savoir. Puisqu'après, quand tout d'un coup, ils n'ont plus eu le choix et que je suis sorti de l'école de comptabilité.
Mais vous l'avez faite, l'école de comptabilité,
oui,
pour
enfin,
les rassurer.
J'ai fait, j'ai assisté.
Vous avez un BEP?
Oui, non, j'ai même pas. Je crois que je ne l'ai même pas.
Vous n'êtes pas allé au bout?
Non, je suis resté. Non, mais j'ai assisté aux cours. J'ai regardé ma vie passer pendant pas mal de temps. Vous savez, à l'école, partout, j'ai assisté. J'étais présent. Mais j'ai vraiment aucune notion ni de comptabilité ni de quoi que ce soit. Non, le seul moment où j'ai été actif, où ma vie a changé, c'est grâce à lui que la vie est passée de noir et blanc à la couleur. Parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, quand on était enfant dans les années 68, 70, les pires étant 72, 73, 74, c'était un monde d'adultes. C'était, il n'y avait pas de couleur, les gens étaient austères, les lunettes étaient austères, les gens étaient habillés de manière très très austère.
Avec et les enfants n'avaient pas droit à la parole.
Ah non, c'était considéré, on passait de l'âge enfant à adulte, tout de suite, à l'âge de 8 ans. L'âge de raison, on devenait un adulte, on pouvait comprendre plein de choses, et on vivait dans une austérité totale. Et grâce à Dieu, 68 est arrivé avec toute la déchéance et toute la folie que ça a imposé à tous les gens qui étaient bien pensants. Et la couleur est arrivée. Et moi, j'ai eu la chance.
Métaphore.
Voilà, la couleur est arrivée et j'ai eu la chance de rencontrer cet ami qui m'a emmené partout. Il avait 4 ans de plus que moi, il l'a toujours d'ailleurs.
Vous alliez par exemple au cinéma ensemble, parce que pourquoi le rêve de devenir acteur? Pourquoi le cinéma, le théâtre, le cours Florent? Comment saviez-vous que vous aviez ce potentiel?
Alors je ne le savais absolument pas, mais c'est vrai que le premier cinéma c'était avec lui. Je suis allé sur les Champs-Élysées. Enfin, j'y allais quand j'étais gamin en Espagne. Mais le premier vrai cinoche tout seul. Et puis après, voilà, il y a eu plein de choses. Il m'a emmené tout le temps, partout. Il m'a fait découvrir vraiment tout. De l'art jusqu'à la fête, surtout beaucoup la fête. Et j'en remercierai jamais assez. Parce que j'ai vécu les plus belles années. J'étais toujours au rendez-vous pour la fête.
Alors. Acteur, voilà, vous allez intégrer le cours Florent et au début de cette conversation, on a agité les souvenirs, donc vous nous avez dit comment les choses se sont finalement dessinées au fur et à mesure, mais moi je me souviens de cette phrase que vous aviez lâchée il y a quelques années sur un plateau de télé, quand on est acteur, on vit du regard des autres.
Bon, oui.
Donc être acteur, c'est une quête permanente parce que tout est volatile, tout est éphémère. On ne peut jamais être serein. Il y a les modes qui passent, il y a les gens du métier qui jugent, les bons films qui ne trouvent pas forcément leur public. En fait, une carrière, c'est vraiment une course de fond.
C'est une course de fond. C'est aussi le fait que quand on est rejeté tout entier. C'est-à-dire que quand on est rejeté, on n'est plus... et de nos jours, Dieu sait si les rejets sont fréquents. Mais en fait, ce n'est pas une œuvre qu'on rejette, c'est vous. D'une certaine manière.
Donc, ça c'est n'est toujours... pas une œuvre qu'on rejette, c'est vous.
Mais souvent, parce que quelquefois, vous avez des critiques qui sont très constructives, parce qu'elles partent de l'œuvre et des erreurs que vous avez pu commettre. Donc ça, c'est formidable. C'est la critique comme je l'aime. Passer des années à discuter avec des grands critiques de cinéma que j'adorais et qui ne m'épargnaient absolument pas. Mais au moins, il y avait un vrai dialogue. Et maintenant, le problème, c'est que... n'importe qui s'assoit dans une salle, note les autres. Donc, tout d'un coup, vous avez des salves de gens qui vous donnent une note de 2 ou 1. Et vous vous dites, mais c'est dingue. Et bon, ben voilà, il faut l'accepter. C'est assez difficile, c'est dur. Mais bon, on a tous noté comme ça. Donc, c'est ce monde qui fait que le jugement est la première des choses. On a demandé, en fait, à des gens de donner leur première impression sans réfléchir à quelque chose. Donc, tout le monde veut donner son avis.
Alors, effectivement, c'est un métier qui est complètement hors des normes, acteur. Parce que, par exemple, vous dites aussi, José Garcia, sur un tournage, un acteur fait ce que les gens normaux ne feront jamais. Comme, par exemple, pour une seule prise, se battre 45 fois d'affilée avec quelqu'un de 3h à 6h du matin, non-stop. On redescend comment après de tels chocs d'adrénaline?
C'est difficile. Franchement, c'est très difficile parce que ça agit énormément sur le système nerveux. Ça agit, vous savez, ne serait-ce que tous les soirs, être prêt à 8h, manger à 17h30, se préparer, se concentrer et parler fort de 8h jusqu'à 22h, fait que tous les soirs, dès que ça s'arrête, quand vous arrivez dans un restaurant, vous parlez beaucoup plus fort à partir de cette heure-là. Vous êtes conditionné.
En fait, redescend-on vraiment, réellement pas?
Oui, si. Il faut une vraie discipline. Si après, vous commencez à aller dîner, chacun a sa méthode. Il n'y a pas de vraie bonne méthode, mais moi, je sais que je mange tôt et après, je vais me coucher. C'est la seule manière de tenir un bon rythme, d'être toujours présent, d'être toujours bien, mais franchement, il n'y a pas de méthode.
Il vous vient d'où ce sens absolument hallucinant de la désinhibition?
Parce que je suis extrêmement timide. Je ne suis pas du tout quelqu'un...
Non mais, attendez, on dirait que finalement, il n'y a que les extrêmement timides qui arrivent à faire les choses les plus hallucinantes qui soient.
Ah mais, parce que il y a des phrases comme ça que j'adore. Pour faire une vraie crapule, je crois qu'il faut être profondément honnête. Je crois que quelqu'un qui n'est pas forcément formidable dans la vie a beaucoup de mal à faire une vraie crapule parce qu'il finit par arriver à sa limite à lui, qu'il connaît. Alors que quand vous êtes quelqu'un de gentil, vous vous dites « mais moi je peux faire tout ce que je veux parce que je sais très bien que je ne ferai jamais ça dans la vie ». Donc la limite est encore plus loin, elle est poussée. Pour faire un salaud, je pense qu'il faut être vraiment très très bien dans sa vie et être capable de faire des trucs terribles après.
Ouais. Vous êtes convaincant, José Garcia. Bon, alors sur un tournage... Eh bien, vous n'êtes jamais dans votre loge. Jamais. Hein. Quand vous ne jouez pas dans une scène, vous êtes sur le plateau, assis sur un cube, derrière les caméras, histoire de ne rien perdre de l'aventure. Donc, une question s'impose. Quand allez-vous réaliser votre premier film?
Ah, ça, je n'en ai absolument aucune envie.
C'est pas vrai.
Non, parce que je vais vous dire une chose. Je n'ai pas... vous savez, être réalisateur, c'est deux choses. C'est d'abord avoir un point de vue, ce qui n'est pas facile. Deuxièmement, être capable, avec une caméra... d'avoir un œil qui vous permet de raconter une histoire, mais à travers une caméra. Donc à travers des objectifs, à travers... voilà. Cette partie-là est tellement technique que... elle me rendrait fou, je crois, parce que
on est très entouré sur un tournage. La preuve, toutes ces jeunes comédiennes, par exemple, ces jeunes actrices qui se lancent dans une première réalisation, ouais, qui ont des assistants réalisateurs, qui ont des chefs-op.
Ouais, mais elles ont un point de vue, elles ont une idée très précise de ce qu'elles veulent. Je pense qu'elles sont imprégnées de quelque chose qu'elles ont envie de raconter, ou d'une faille, ou de quelque chose qui les meut, qui les emmène vers quelque chose.
Vous préférez être au service d'un rôle et d'une histoire, que vous n'avez pas signé, alors que vous êtes scénariste.
Oui, 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 j'adore ça. J'adore développer des personnages. C'est ça, c'est ma passion. Construire un personnage. Là, en ce moment, je suis en train de me battre pour un travail. Je suis en train de construire un méchant et je cherche l'effroi le plus total qu'il puisse y avoir sur un personnage sans qu'on ne se rende compte que c'est un méchant. Donc ça, c'est l'horreur totale et je suis en train de travailler dessus. Ça me passionne.
Parce que le tournage démarre dans combien de temps ?
Ah non, pour l'instant, on est encore juste en train de discuter parce qu'il faut que je vois avec les gens avec qui je suis en train de travailler si on est d'accord sur le principe, puisqu'il faut qu'ils m'accompagnent, vous comprenez ? Il faut qu'ils me donnent les endroits où je vais pouvoir être horrible et pour qu'après, je puisse revenir à une vraie sympathie.
Sera le rôle le plus monstrueux de, jusqu'à présent de votre carrière.
Ah non, je débute, je commence à peine. Ah non, parce que en fait, je vais enlever la majorette que vous avez connue pendant des années pour le transformer en hideux, en personnage horrible. Ouais, je suis comme Anthony Hopkins.
Voilà, Anthony Hopkins, exactement, à la française. Et quand vous dites, je travaille, je réfléchis, je prépare ce rôle, de quelle manière ?
Ah ben, d'abord, il faut connaître...
Vous plongez dans des faits divers, vous faites quoi ?
Non, il faut d'abord trouver les vraies raisons qui peuvent mener un être à arriver à quelque chose d'abject. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une déconstruction, vous prenez, Hitler ou Staline, et vous déconstruisez comment les gens peuvent arriver jusque-là. Qu'est-ce qui s'est passé à tous les moments de leur vie pour savoir comment des gens sont capables d'hypnotiser les autres? Et ça, c'est quand vous devenez un dictateur. Mmh. Donc les dictateurs, évidemment, c'est le point culminant. Mmh. Voilà. Mais si je devais faire une déconstruction d'un type comme Trump ou machin, ce sont des personnages qui, politiquement, sont des machines. Et ça, c'est des personnages que je n'aime absolument pas, hein, je tiens à le dire, mais qui sont intrigants pour savoir comment ces gens-là arrivent à exercer un magnétisme sur d'autres personnes et à embarquer les types. Vous savez, il y a toujours quelque chose. Moi, je suis passionné là maintenant par les Instagrammeurs, tous ces gens et machin, qui arrivent à avoir une connexion avec les gens qui ont 40 millions de personnes. Et je me dis, ces gens-là, franchement, ça force le respect parce que je me dis, quelle est la connexion que ces gens ont réussi à établir avec les autres ? Je crois que même de toute façon, personne n'arrive à comprendre, à savoir vraiment comment on arrive là. Mais nous, on est obligé de trouver une faille, si vous voulez, pour d'abord être capable de vivre avec un personnage monstrueux. Même s'il est... Et savoir si on est capable d'aller jusqu'au bout et quel plaisir on peut trouver là-dedans à le rendre répugnant et horrible. Voilà, ça c'est la question. Et si on y arrive ou pas. Puisqu'après, il ne faut pas vivre avec un personnage qui vous écœure tous les jours parce que ce n'est pas bon.
José Garcia, j'ai appris qu'il y a une douzaine d'années de cela, vous avez pris le bâton de pèlerin pour faire le chemin de Compostelle.
Oui.
Vous êtes parti seul ou accompagné ?
Non, je suis allé accompagner un ami qui avait perdu son père de manière inattendue et qui voulait honorer son père, qui rêvait de le faire depuis toujours. Et comme moi, je suis natif, enfin pas natif, mais je...
De Galice et
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Voilà, Compostelle, voilà. C'est en fait la capitale de la Galicie, n'est-ce pas ? Donc vous étiez tous les deux à travers champs, à travers bois ?
Oui, je suis allé le rejoindre en plein milieu du chemin parce que moi, je tournais un film et voilà, et on l'a fait en deux étapes. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rester non plus sur toute la longueur, donc on l'a fait en deux fois 11 jours. Mais c'est extraordinaire. Après, une fois que vous commencez à faire ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le chemin de Compostelle, ce n'est pas du tout un truc uniquement dédié aux catholiques.
Ouais.
Il y a des gens de toutes les origines, qui viennent de partout. Il y a des gens qui partent de chez eux deux, trois ans avant, qui partent un jour et qui marchent pendant trois ans.
Vrai chemin initiatique.
C'est, comme disait Mel Stevens, tous les chemins sont initiatiques. C'est-à-dire qu'on peut décider d'en faire un soi-même. Le slogan, je dirais, de ce chemin dit « c'est pas toi qui fais le chemin, c'est le chemin qui te fait ».
Oui.
Et donc, en fait, à partir du moment où on se met à marcher, de toute façon, l'être humain est fait depuis voilà, ça, je crois, sa création, pour marcher, pour bouger, pour migrer, je tiens à le dire. Donc il a toujours marché sans avoir d'obstacle et d'avancer.
Mais
et
alors, vous étiez avec votre ami, est-ce que vous échangez beaucoup ou bien chacun était plutôt recueilli, plutôt silencieux, se laissant happé par le paysage, les sons de la nature, les pensées comme ça qui vous taraudent, ou vous avez beaucoup parlé avec votre
ami? Non, mais vous avez 50 000 étapes. Vous savez, ce qui est formidable, c'est que vous avez des rencontres aussi qui sont absolument hallucinantes. Hallucinantes, puisque vous êtes là, faites pour marcher, pour parler, vous parlez plein de choses, vous passez plein de trucs, et puis vous rencontrez des gens inattendus, qui sont d'un autre niveau, quelquefois des apparitions, quelquefois des gens... Qui sont hallucinants. C'est-à-dire qu'une fois, par exemple, je marchais, on marchait sur une plaine, vraiment une grande plaine longue comme ça, et un type est sorti, mais un grand gars, mais d'une beauté, mais incroyable, une espèce de mannequin avec les cheveux longs, une espèce de Jésus sur pattes, quoi. comme ça, habillé avec un pantalon clair, le mec allait à une vitesse qui était absolument démente. Et il est venu à notre niveau, avec un regard super sympa, il est resté 5 secondes avec nous, il nous a dit salut, et on lui a dit oui, bah, de toute façon, on n'est pas loin, et le type a disparu en 10 minutes. Et on a eu la même chose avec une fille qui est arrivée. On était dans un groupe de 4-5 personnes. Une bombe atomique qui est arrivée dans Oudachemin, qui fait salut, tout le monde a commencé à accélérer et elle a disparu. Pareil, en fait, il y a des gens que vous rencontrez comme ça. Après, vous tombez sur des gens qui vous racontent des histoires, les raisons pour lesquelles ils sont venus.
Oui, elles sont très, très variées.
Ah, sont d'une émotion. Voilà. En ce moment, tiens, j'ai rencontré d'ailleurs sur un plateau d'une radio concurrente une dame qui est assez extraordinaire et je vais me proposer vraiment de l'aider. Et elle travaille sur dans les hôpitaux à recueillir les témoignages des gens. Ça peut être une maman qui va partir et qui voudrait que son fils ou son bébé qui vient de naître sache qui elle était. Mmh. Et je trouve ça absolument admirable, fantastique. Ces chemins, en fait, ils sont aussi beaux. Une fois que j'ai commencé d'ailleurs ce chemin, après je suis parti, d'ailleurs avec cet ami, on est parti au Mont Athos. Donc là, c'est carrément chez les orthodoxes pour voir. Et à partir de là, on n'avait qu'une envie, c'était de continuer à faire d'autres pèlerinages et tout, parce que c'est extraordinaire de rencontres absolument démentes, avec des gens de tous les styles, de tous les genres, de toutes les confessions.
Et la célébrité n'est pas... en fait, encombrante. C'est-à-dire que dans les gîtes, il n'y a pas soudain quelqu'un qui s'exclame, qui prononce votre nom, écarquille les yeux. Non.
Non. Non, non. D'abord parce qu'on est en Espagne et qu'il y a des gens de tous les pays du monde qui viennent. Non, mais il y a des histoires assez incroyables. Des choses très fortes de gens qui sont partis. Et quand vous comprenez pourquoi ils sont là, c'est fort. Et puis après, il y a des gens, des couples qui se rencontrent. Il y a tellement d'histoires. Des gens qui meurent dans vos bras. Voilà, il y a plein d'histoires.
Sur le chemin de Compostelle, José Garcia, vous avez pris des décisions auxquelles vous vous êtes tenu?
De toujours avoir des campides sur moi. Pour, au cas où
voilà,
je mériterais les pieds.
Les pauvres petits orteils et les talons.
Non, il n'y a pas de décision. Non, mais c'est quelque chose qui vous rend meilleur. De toute façon, vous savez, il n'y a pas besoin de faire le chemin pour... le fait d'être avec un ami, d'être simplement avec des gens, de pouvoir rester 5 minutes à penser sur autre chose que soi-même. Vous savez, quand j'étais au Mont Athos, on se réveillait quelquefois à 4h30 du matin et on voyait des gens aller prier pour le monde. Je trouve ça assez formidable. Parce que qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas, la démarche de ça, je trouve ça assez beau, de penser aux autres.
Alors, vous aussi, vous faites d'ailleurs plus que penser, vous agissez. Parce que comme... vous n'aimez rien tant qu'apporter la joie, José Garcia. Eh bien, vous le faites par exemple avec l'association Rêve de Gosse, en emmenant pour des baptêmes de l'air, dans des avions que vous pilotez, des enfants qui sont malades ou handicapés. C'est une aventure très très particulière, ça.
Oui.
Depuis des années, vous faites ça.
Oui, depuis quelques années. Oui. Si, c'est une façon de... comment dire, Vous savez, moi quand je suis impressionné par quelque chose, et il y a très longtemps, j'étais impressionné par le handicap. Ça, c'est quelque chose qui m'était très mal à l'aise et j'ai la chance d'aller à Robert Debré, d'ailleurs qui est devenu après par la suite l'association d'Omar Sy, qui est formidable. Et on allait là-bas tout le temps pour aller voir et j'ai rencontré tous ces gamins cabossés par la vie qui étaient en phase terminale alors qu'ils avaient 16 ans. Et j'ai appris. Et Rêve de Gosse, c'est formidable parce qu'on a toutes les pathologies. Il y a des enfants de la lune, il y a des enfants avec des traumatismes déments et on les emmène et on leur enlève la gravité.
Oui, c'est ça. Au propre et au figuré.
Ouais.
Voilà. D'ailleurs, je pense à Jacques Brel, vous savez, aux Marquises, qui avait fait passer leur baptême de l'air aux sœurs d'un couvent en les emmenant dans son petit bimoteur baptisé Jojo.
Ouais.
Et donc voilà, donner de la joie, de l'émotion, il y a mille manières de le faire.
Bien sûr, mais il y a des manières très simples. Hein. Simplement descendre dans la rue et parler avec les gens.
José Garcia, pourquoi vos 40 ans ont-ils davantage été un cap que les 50 ? Parce que là, vous êtes solaire, vous êtes serein, vous rayonnez. Oui. Les 40 ans, vous êtes posé plein de questions ?
Non, mais les questions étaient les bonnes, je crois. Vous savez, comme vous me demandez si je reviendrai sur ma vie.
Voilà.
Les questions étaient... En fait, je n'ai pas vraiment de retour à faire. Parce qu'évidemment, il y a plein de choses que j'aimerais retransformer pour qu'elles se soient mieux passées. Ou qu'elles, voilà. Mais les 40 ans, en fait, c'est là que je me suis arrêté. C'est là que j'ai concrétisé tout ce que j'avais envie de faire. Et maintenant, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Donc, les réflexions, c'est toujours quelque chose de bon à partir du moment où on les met en pratique. Mmh. Le problème, c'est réfléchir sur plein de choses, vouloir les faire et ne pas les incarner. Ou ne pas pouvoir le faire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas, malheureusement. Mais c'est une prise de risque. Et cette prise de risque, quand on a la chance de pouvoir la prendre, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, elle est formidable. Ou pas.
Bon, vos projets en 2024, d'ailleurs c'est pas des projets, il faut absolument qu'on parle du film qui a été primé avec Charlotte Gainsbourg, Nous les Leroy, n'est-ce pas? C'était au festival de l'Alpe d'Huez
qui m'a toujours porté chance, hein.
C'est vrai,
je suis arrivé là-bas pour la création 1997 avec La vérité si je mens, après, des années après avec Rire et Châtiment, le film de mon ex-femme, après
Isabelle
avec Le Mac.
Oui.
Et maintenant, Nous les Leroy, mais jamais avec le Grand Prix. Alors ça, c'est... Et l'accueil a été extraordinaire. Mais j'adore ce film.
Alors, il sort quand, Nous les Leroy ?
Il sort le 10 avril.
Bon, un petit pitch rapide sur Nous les Leroy ?
Oh, c'est une famille qui s'appelle les Leroy. C'est Charlotte Gainsbourg, Lily Aubry et Adrien Olmé, qui sont mes deux enfants.
Oui.
Nos deux enfants. Et Charlotte, est un peu fatiguée par la vie, elle a envie de prendre la tangente, de ne plus rester avec nous, même si elle nous aime beaucoup. Et moi, je suis un mari qui lui dit écoute, donne-moi 3 jours, donne-moi 3 jours, je vais te faire comprendre à quel point nous sommes une famille extraordinaire, à quel point tu es une femme qui va aimer notre famille pour pas que tu oublies,
ça
parce que je
très,
pense
très
que tu
j'ai
as oublié qui
voir.
Nous étais. Et en fait, je l'emmène dans tous les endroits de notre vie qui ont été des moments extraordinaires. Il se trouve que quand on revient un peu sur son passé, alors là, quelquefois, il vaut mieux le garder en carte postale.
Oui, c'est formidable parce que finalement, la question cruciale que pose la pièce biographie Un jeu que vous jouez au Théâtre Marigny à Paris, elle revient tout le temps, elle infuse tout.
Ah, mais il y a des moments
elle
comme
infuse.
Ça.
Ouais, ouais. C'est extraordinaire.
Ouais.
Alors, juste avant, parce que, hélas, le temps file trop vite avec vous, José Garcia, mais votre vin pour célébrer l'amitié à l'apéro, José Garcia, on le trouve toujours en place chez les bons cavistes.
Oh là là, il arrive plus que jamais. Oui, il arrive chez, il est chez Monoprix, il arrive évidemment sur le site des Niçois, vous pouvez toujours l'avoir, et puis il arrive en force, parce que là, maintenant, on va avoir les Jiroboam et les Magnum, qui étaient là déjà l'année dernière. Et c'est l'occasion de pouvoir faire du lien, de rire, de s'amuser, parce qu'en fait, ce vin n'a pas été fait du tout pour vendre de l'alcool, il a été fait pour qu'on rie ensemble, pour qu'on s'amuse, pour qu'on partage. Donc voilà.
Et pour célébrer tous vos triomphes en 2024, là, au Théâtre Marigny, en ce moment, donc à Paris, avec Isabelle Carré, avec Jérôme Kircher, biographie, Un jeu. Et puis, très vite, le film avec Charlotte Gainsbourg, Nous, les Leroy, le 10 avril, primé au Festival de l'Alpe d'Huez.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on a oublié de se dire, José Garcia ?
Oh là là, il y a tellement de choses, mais je vais remettre une bûche dans le feu.
D'accord.
Et je vais vous raconter tout ça.
Je vous embrasse, à très bientôt.
Merci.
13h, 14h, Isabelle Morizet sur Europe 1.